prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps d'adoration, ce temps de louange. Merci pour ces chants qui nous portent dans l'adoration et dans la louange. Oui, tu es celui qui combat pour nous. Nous prions à cet instant, depuis ce début de culte, que par ton esprit, Seigneur, tu nous visites. Merci pour ce premier dimanche de l'année. Et nous sommes là, ton peuple rassemblé, pour t'adorer, pour être reconnaissant de ce que tu es pour nous. Et nous voulons que nos cœurs soient ouverts. Enfin, nos cœurs sont ouverts depuis que nous sommes rentrés ce matin dans ta maison. Dans cette communion, nous prions que ce cœur reste ouvert et que ton esprit nous parle comme il a commencé de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonne et heureuse année. Tous les vœux, en tout cas, toutes nos prières pour chacun et chacune d'entre vous, puisse le Seigneur vous encourager, vous porter dans chacun de vos projets qui sont selon son cœur, n'est-ce pas ? Selon le cœur de Dieu. Et les projets qui ne sont pas selon son cœur, ma prière, c'est qu'il vous en détourne. Parce que les projets qui ne sont pas selon le cœur de Dieu entraînent plus de malheur que de bonheur. Donc que Dieu vous conduise dans les projets qui sont selon son cœur. Et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Nous terminerons aujourd'hui la série sur l'enseignement de qualité. Nous avions, depuis le mois de septembre, proposé et ensemble adopté une série d'objectifs pratiques, n'est-ce pas ? Et dans ces objectifs pratiques, il y avait que nous puissions être enseignés et encouragés à vivre un enseignement de qualité. Et j'avais commencé par dire, qu'est-ce que la Bible ? La parole de Dieu. Vous vous souvenez ? Et dimanche dernier, nous avions aussi été dans cette thématique. Mettez en pratique la parole et ne vous limitez pas à l'écouter. Selon l'épître de Jacques. Et on avait expliqué ce que ça voulait dire. Et en résumé, la parole est là pour que nous l'entendions, nous la méditions, mais surtout que nous la pratiquions. N'est-ce pas ? Et nous avions aussi vu un autre aspect, n'est-ce pas ? Et cet autre aspect, c'était à quoi sert-il à un homme de dire « J'ai la foi » s'il ne prouve pas par ses actes qu'il a cette foi-là, n'est-ce pas ? Et je nous avais encouragé que cette année, notre foi soit une foi encore vivante, une foi vraie, une foi qui agit. Et j'avais pris juste l'exemple, on aurait pu prendre plusieurs exemples. Si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des chrétiennes, si nous disons que nous avons la foi, l'une des façons de manifester concrètement notre foi, c'est de vivre l'Église. Et vivre l'Église, c'est d'être présent, non seulement pour être enrichi, mais aussi pour donner, pour agir, pour manifester l'Église selon Dieu. Et puis enfin, nous avions aussi vu l'Esprit de Dieu nous a donné la vie, parce que le salut que nous avons, ce n'est pas par les œuvres. La Bible dit que nous sommes sauvés pas par rapport à ce que nous sommes capables de faire, parce que nous ne sommes pas capables de faire que du bien. Nous faisons aussi le mal. Et si Dieu voulait comptabiliser, à mon avis, et selon l'Écriture, le poids de ce que nous faisons de mal pèserait plus que le poids de ce que ferait de bien. Du coup, nous ne pourrions pas être sauvés. Et Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Et cette grâce, elle nous vient par l'Esprit de Dieu. Donc, la Bible dit, dans cette épître de Galates, si l'Esprit nous a donné la vie, nous qui étions morts, nous qui étions en odeur de pourriture, une mauvaise odeur, Dieu nous a ressuscités en lui, en Jésus-Christ. Et nous sommes désormais des enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Alors si l'Esprit a fait ça, l'apôtre Paul, poussé par Dieu, dit, mais si l'Esprit a été capable de vous convaincre, de vous tourner vers Dieu, pourquoi ne vous laissez-vous pas guider alors par cet Esprit-là ? Parce que quand on lit l'épître aux Galates, c'est une épître qui n'est pas adressée à une église en particulier, qui est adressée à des églises dans une région. Donc Paul ne s'adresse pas à des chrétiens qui sont localisés dans une église. Il s'adresse à plusieurs églises. Donc ça s'appelle des épîtres un peu universelles, où il ne s'agit pas d'un problème spécifique d'une église, mais qui concerne les chrétiens en général. Et l'apôtre Paul, dans cette épître, il dit, mais vous couriez aussi bien. Hein, il commence en disant ça. C'est la seule épître où il ne félicite pas les chrétiens. Dans la plupart des épîtres poussées par Dieu, quand l'apôtre Paul écrit, il commence toujours par les féliciter, par leur dire, je bénis Dieu parce que vous avez telle qualité. Dans l'épître aux Galates, il commence tout de suite en disant, je suis triste. Parce que vous couriez si bien, vous étiez très bien engagé, et puis vous avez arrêté votre course. Il dit, je ne comprends pas. Mais parce que vous êtes laissé tromper par des faux docteurs. Parce que vous avez écouté de mauvais messages. Il dit, ressaisissez-vous, reprenez du poil de la bête, relevez-vous, parce qu'à cause de ce faux message, non seulement vous vous détournez de la voie du salut, mais en plus, vous commencez à ne plus vivre comme des chrétiens. Vous commencez à vivre comme des gens qui n'ont même pas Dieu. Et ce n'est pas digne de vous. Et le chapitre 5 est encore plus brut, parce que le chapitre 5, il dit, vous avez même des querelles parmi vous, vous avez même des querelles. Et le thème qui est utilisé en grec, c'est un thème qui parle plus de querelles entre les animaux. Il dit, vous avez des animosités entre vous. Il dit, mais tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Et nous voulons bénir Dieu parce que nous avons, par la grâce de Dieu, au cours de l'année passée, nous nous sommes laissés conduits par Dieu. Notre Église s'est laissée conduire par Dieu. Et nous voulons continuer à progresser dans cette marche avec le Seigneur. C'est pour cela que nous allons continuer ce matin dans ce thème. N'est-ce pas? La diapo d'après, s'il te plaît. Les marques divines du trait de caractère d'un chrétien mature. Mais en fait, c'est le chapitre 5 de Galates, versets 22 à 25, qui nous montre ces traits de caractère, qui nous montre ces marques divines dans la vie d'un chrétien qui aspire à la maturité, qui marche vers la maturité, qui chemine vers la maturité. C'est vrai qu'on dit, de toutes les façons, on ne sera pas comme Jésus sur la terre. Il me semble que c'est vrai, mais il me semble que ça dépend de la façon dont on le dit. Si on le dit pour se décourager soi-même, ce n'est pas la peine de le dire, ça ne sert à rien. Mais si on le dit pour s'encourager à faire les efforts par la grâce de Dieu pour atteindre la statue parfaite de Christ, alors on a raison. Et si on a raison, ça veut dire que quand on va peut-être pas y arriver, quand on va peut-être tomber, quand on va peut-être être déçu, on va quand même se relever pour continuer. Mais si on le dit de façon négative, on ne fait même pas d'efforts. Parce que si on peut être comme Jésus au ciel, sur la terre, ça sert à quoi alors de faire des efforts? Donc c'est une mauvaise façon d'utiliser cet adage. Alors je prie que ce matin, Dieu nous encourage, qu'au travers de ces quelques exhortations sur ce chapitre 5 de Galates, que Dieu puisse vraiment nous donner de rentrer en cette année 2018 avec les traits du caractère de Dieu qui a investi en nous. Il y a une telle puissance à notre disposition et nous n'en sommes pas conscients. Non, nous en sommes conscients, mais nous ne laissons pas Dieu faire les choses dans nos vies. Lisons Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et la rivalité. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne sert pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Amen. Voilà la parole de Dieu. Quelquefois, elle est claire, elle ne s'ouvre d'aucune explication. Mais par pédagogie, nous sommes encouragés à expliquer pour que nous puissions avancer ensemble sur ce chemin de maturité selon Dieu. Alors la première question que nous nous posons devant ce texte, et c'est la diapo d'après, pourquoi devons-nous laisser l'Esprit Saint influencer notre vie? D'abord parce que tout simplement, d'après le texte, le chrétien est décrit comme quelqu'un qui laisse l'Esprit de Dieu conduire sa vie. Donc si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu conduire notre vie, c'est une anomalie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, selon la parole de Dieu, tout chrétien, toute personne qui se tourne vers Dieu est invitée, est poussée par l'Esprit de Dieu à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Et on le dit souvent, c'est cette petite voix, enfin parfois elle n'est pas que petite, c'est cette voix qu'on entend régulièrement dans des situations précises qui nous pousse vers la volonté de Dieu. Et nous tous, par expérience, nous avons tellement des fois résisté à cette voix parce qu'elle nous semblait ne pas être la solution adéquate dans la situation qui était la nôtre. Nous avions la bonne situation, la bonne solution. Et cette voix nous suggérait une solution qui nous semblait ne pas être la bonne. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'au bout du compte, quand nous n'écoutons pas cette voix, ben nous voyons bien tout de suite que nous sommes pris le mur en plein visage. Et donc l'expérience chrétienne, l'expérience spirituelle du chrétien l'incite, l'encourage à avoir ce discernement spirituel, être sensible à cette voix de Dieu. C'est le premier pourquoi. Le premier pourquoi, c'est parce que nous devons naturellement nous laisser conduire par Dieu. Le deuxième pourquoi, c'est parce que voilà, nous sommes invités à marcher. Nous sommes invités à décider. Nous sommes invités à rester dans le droit chemin. Mais le chemin, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin. En même temps, c'est lui qui nous guide. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Il est le chemin et il est le guide, n'est-ce pas? Ça veut dire que si nous n'empruntons pas ce chemin, si nous ne laissons pas guider, qu'est-ce qui va nous arriver? On va faire naufrage. Vous savez, sur la terre ferme encore, on peut se perdre d'un chemin, mais on peut toujours retrouver sa voie. Tant qu'on est un peu lucide et qu'on sait lire des choses, ce n'est pas le cas quand on est en mer ou quand on est en avion. Si les aviateurs et les pilotes n'écoutent pas clairement les consignes qui leur sont données, ils savent bien que le bateau ou l'avion, c'est la dérive, c'est la catastrophe. Et c'est un peu cette image qui est la nôtre. C'est le deuxième pourquoi. Enfin, le troisième pourquoi, c'est parce qu'il y a un gros avertissement, un gros signal qui non seulement retentit très fort, sonore, mais aussi lumineux. C'est le verset 21 de notre texte. Le verset 21 dit, il y a deux façons de laisser influencer quand on est chrétien. Soit on se laisse influencer par sa propre nature, mais c'est une nature qui nous mène dans les choses que Dieu n'aime pas, qui sont citées là depuis le verset 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles, la magie. Les gens se haïssent, ils se querellent, ils se jalousent, ils sont coloriques, ils sont dominés par la colère, la rivalité, ils sont divisés en parti pris, ils sont envieux, ils sont dans l'ivrognerie, dans l'orgie, et plein de choses qui les sont semblables. L'avertissement, c'est si on ne se laisse pas conduire par l'Esprit. Parce qu'il a dit plutôt au verset 16, de toutes les façons, il n'y a que deux influences quand on est chrétien. Soit on se laisse influencer par l'Esprit, soit on se laisse influencer par soi-même. Donc le soi-même, c'est le soi-même qui est selon la chair. Selon la chair, c'est-à-dire qui ne se laisse pas guider, orienter par Dieu. Donc il dit, si vous laissez constamment diriger par vous-même, le danger, c'est que vous allez vivre ce qui est décrit verset 19, verset 20, verset 21. c'est les œuvres de la chair. Et il dit, à la fin du verset 21, « Je vous avertis, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi, j'ai même peur de lire ce verset. » À chaque fois que je relis ce verset, au début, quand je le lisais, je ne le comprenais pas. Je dis, mais quand même, je suis sauvé par la grâce. Je suis sauvé par la grâce. Donc, quelque part, peu importe ce que je vais faire, je vais quand même sauver. Et le texte dit, mais si tu es sauvé par la grâce, en fait, quand on est sauvé par la grâce, on doit avoir les attitudes et la vie de celui qui est sauvé par la grâce. Mais si ta vie manifeste verset 19, verset 20, verset 21, pose-toi la question. Est-ce que tu as vraiment reçu la grâce de Dieu? Si ta vie est constamment dominée par ces choses qui sont citées dans le verset 19, le verset 20 et le verset 21, pose-toi la question. Est-ce que la grâce de Dieu t'a vraiment atteint? Parce que si c'est ça que tu vis tous les jours, bah, l'apôtre Paul dit, poussé par Dieu, en fait, tu n'es pas sur le chemin du royaume de Dieu. Tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous laisser, si nous sommes chrétiens, conduits par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous manifeste, c'est cette conduite qui atteste, qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. Voyons maintenant ce qu'on appelle les neuf grâces chrétiennes. La diapo d'après. Les neuf grâces chrétiennes. Vas-y encore. Voilà, c'est le groupe de neuf grâces chrétiennes qui semble dépeindre l'attitude du chrétien vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même. C'est ce que j'ai appelé les traits de caractère, hein? Les éléments distinctifs du trait de caractère divin d'un enfant de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul commence à dire à partir du verset 22 de notre texte. Il dit, mais ce que l'Esprit fait dans la vie du chrétien, et qui montre qu'il est vraiment chrétien, qu'il est en train de marcher vers la maturité, voici les éléments. Donc il dit, voici le baromètre, voici les indicateurs. Si on était sur dans le code de la route, il dit, voici les balises, voici les signaux qui te montrent que tu es sur le bon chemin, que tu es en train de bien avancer, que tu es en train de bien grandir. C'est trois fois, trois éléments. Et les premiers éléments, c'est l'amour, la joie et la paix. C'est la diapo d'après. Vas-y encore. L'amour, la joie et la paix. Ces éléments-là sont principalement dirigés vers Dieu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dirigé vers nous aussi, mais c'est principalement dirigé vers Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour dont nous parlons ici, c'est l'amour agapé, l'amour agapé ou l'amour qui vient de Dieu. Cet amour que Dieu nous transmet, dont nous avons parlé dans les prédications passées, donc je ne vais pas tellement rester longtemps dessus parce qu'on a dit un certain nombre de choses déjà, mais rappelez juste que cet amour, c'est notre étendard, c'est notre balise, c'est notre drapeau. C'est par là que le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. L'amour de Dieu. Cet amour est caractérisé par ce Dieu qui se manifeste pour nous, dont nous avons célébré encore le point culminant de cet amour pour nous. Il a donné sa vie pour nous, par amour, pas par contrainte, parce qu'il nous aime. Il dit le vrai amour, c'est celui qui donne sa vie pour celui qu'il aime. Et c'est cet amour qui doit nous parler. L'amour de Dieu implique l'obéissance, le respect à la fidélité à Dieu. Celui qui expérimente cet amour de Dieu, ça lui assure la paix intérieure. Nous tous qui avons fait cette rencontre avec Dieu, il nous a donné une paix dont nous parlerons tout à l'heure. Et cet amour nous presse à vivre aussi l'amour vis-à-vis des autres, n'est-ce pas? Parce que cet amour est en nous, il nous presse, il nous pousse, il nous incite, il nous influence positivement à vivre l'amour. Et cet amour se manifeste de façon multiple, hein, et comment cette forme d'amour se manifeste de façon réciproque. Il y a l'amour entre un homme et une femme. C'est illustre bien ce que Dieu dit à chaque fois, et Dieu prend cette image. Dieu aime comparer son peuple à son épouse. Jésus-Christ aime aussi cette image, hein. Il est le fiancé il est l'époux. L'église est l'épouse qui dit, viens, je t'attends. Donc, il y a la première sphère, me semble-t-il, de la manifestation de cet amour, c'est dans le couple. Que Dieu nous aide cette année, vous qui êtes en couple. Que cet amour de Dieu soit manifesté dans vos couples au nom de Jésus. Manifestez cet amour. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire dans la manifestation de cet amour dans vos couples, dans vos familles, dans vos foyers. Que cet amour soit visible. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez-la en pratique. Le laboratoire de l'amour, c'est les familles. Il y a l'amitié entre les hommes. 1 Samuel 18, 2 Samuel 1, on voit ces traces d'amitié hein, qui nous sont parlées dans la parole de Dieu. Jonathan qui aimait qui aimait David comme son frère. Et il y a toujours, et Jésus qui dit quoi à ses disciples, il dit vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. L'amour, c'est cette amitié. Il y a l'amour paternel, l'amour maternel, cet amour, cette filiation, n'est-ce pas? On voit aussi ça. Qui sait non seulement aimer, chérir, attendrir, câliner, mais qui sait aussi éduquer, corriger, parce qu'il enseigne. L'amour, c'est ça. Le vrai amour, ce n'est pas l'amour câlin, câlin seulement. C'est l'amour aussi éducation. Et dans l'éducation, il y a le côté positif, donc le côté investissement en affection, mais le côté redressement, correction. Parce que nous sommes tous tordus à cause du péché. La Bible dit que nous sommes tous tordus dès notre naissance. Et que c'est l'éducation, c'est la correction. Corriger, c'est redresser ce qui est tordu. C'est redresser ce qui est tordu. C'est pas faire du mal pour faire du mal. Comme le disait Janine hier dans la rencontre avec les jeunes ados. Corriger quelqu'un, corriger un enfant, c'est pas le bastonner à mort. Ça sert à rien. Vous allez simplement arriver à faire de lui un aigri, quelqu'un de colérique. Voilà ce que vous allez arriver à faire en lui. Et puis en plus, vous allez le rendre tellement insensible que finalement, la finition corporelle, ça ne lui dira plus rien. Parce qu'il sera immunisé. Mais quand on corrige un enfant, on le corrige par amour. Peu importe le type de correction, mais dans la mesure de ce qui est convenable aussi. Et puis il y a l'amour du prochain, plus largement. D'abord du compatriote, ça c'était en Israël. En Israël, quand on dit son prochain premier, c'est le juif d'abord. Mais Jésus a démontré que ce n'est pas que le juif. Hein, la parabole du bon samaritain. Il dit ton prochain, c'est tous les êtres humains. Ce n'est pas les gens de ta race seulement. Ce n'est pas les gens de ton village seulement, ce n'est pas les gens de ton quartier, ce n'est pas les gens de ton immeuble, ce n'est pas les gens de ta famille. C'est tout être humain qui se présente devant toi. Amen. Voilà ce que c'est que l'amour, selon ce texte. La joie, c'est une joie que Dieu nous donne. Ce n'est pas la joie circonstance qui dépend des sentiments. Si c'était que cette joie-là, bah, c'est un peu compliqué de la commander à chaque fois. Parce qu'il y a des jours où on n'est pas joyeux du tout. Et ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie. Mais c'est cette joie qui nous vient principalement de Dieu. C'est le bonheur que nous avons de comprendre au plus profond de nous-mêmes qu'il a tellement de promesses pour nous. Qu'il nous aime tellement, qu'il nous connaît par nos noms et qu'il nous dit des choses qui sont des choses vraies. Et qu'il dit par exemple dans le psaume 91 à la fin, si tu m'invoques, je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Dans le psaume 37, il dit, fais de l'éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Il y a tellement de promesses de ce Dieu d'amour. C'est notre Père. C'est la joie de ce Père-là qu'on a en nous. La joie de ne pas être seul au monde. Parce qu'il est là. C'est une joie inépuisable en lui. Et puis il y a la paix, cette paix profonde, cette paix avec Dieu. Parce que nous avons entendu l'évangile Et nous avons laissé notre cœur tourner vers Dieu et nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. C'est la plus grande paix que nous pouvons espérer dans ce monde. Être en paix avec Dieu. Marcher sur cette terre avec cette sérénité que je suis en paix avec Dieu et que au jour de mon départ pour l'au-delà, je serai aussi avec lui. C'est une paix ça. Elle n'a pas de prix cette paix. Elle n'a pas de prix. Mais justement parce que nous sommes bercés dans cette paix là, nous sommes invités aussi à être des artisans de paix. N'est-ce pas? Dans les béatitudes, heureux ceux qui sont les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes des artisans. Vous savez, un artisan, c'est quelqu'un qui travaille de ses doigts, de ses mains, qui travaille à la matière, qui met du cœur, de lui-même. Tout chrétien est appelé à être un artisan de paix. Et cette paix, tu dois la construire avec l'aide du Saint-Esprit dans ta famille, là où tu es, là où tu vis, là où tu travailles, dans l'église. Voilà les premiers éléments, les trois premiers éléments. Ensuite, les trois deuxièmes éléments, seconds éléments. La patience, l'amabilité et la bonté. Ça, c'est des vertus sociales. Elles sont dirigées vers les autres. En premier, la patience. Ici, dans certaines versions, c'est dit longamité. C'est l'indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir. Ça veut dire, si je me laisse prendre par mes sentiments, en principe, une réaction, une action de ce type va m'entraîner à réagir tout de suite et négativement. Mais la patience que l'Esprit de Dieu me donne de prendre de la distance. Me donne de prendre du discernement avant d'agir. L'adage dit qu'une réaction à chaud, on regrette toujours des réactions qu'on fait à chaud. On les regrette toujours. Parce qu'on n'a pas le recul. Parce qu'on n'a jamais le recul. Alors que l'Esprit de Dieu veut justement nous donner le recul pour que nous ayons la bonne réaction face à une action. Même si elle est injuste. Même si elle est mauvaise. Parce que nous avons à témoigner de Christ, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours marqué par cet épisode de la passion du Christ. Là où il se fait gifler. Oh là là. Imaginez quelqu'un qui a jamais fait de mal à qui que ce soit, qui se trouve traîné là, ce soir-là, et qui en plus, toutes les injures, tous les crachats en plus sont. Et on le gifle. Et il dit, pourquoi tu m'as giflé? C'est la seule. Il dit, pourquoi me gifles-tu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me gifles? Jésus est quelqu'un qui n'enseigne pas ce qu'il ne vit pas lui-même. Au début de son ministère, Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, il a dit quoi? Si on te gifle sur la joue, tant l'autre aussi. Et là, il a vécu ça en direct lui-même. C'était pas de dire sois faible, c'était pas de dire ne réponds pas, c'était pas de dire laisse-toi marcher dessus, c'est de dire prends le temps d'avoir la bonne réaction. Prends le temps d'avoir la bonne réaction. Et c'est ça qui va faire ta différence dans toutes les actions, même difficiles que tu peux vivre. C'est ça qui va faire la différence de ton Seigneur. C'est là que les gens pourront dire elle n'est pas pareille. Il n'est pas pareil. Elle ne réagit pas toujours comme nous. Il ne réagit pas toujours comme nous. Mais comment tu fais? Mais comment tu y arrives? Et c'est là la porte ouverte pour parler de ton Dieu qui t'influence tellement positivement que même quand tu réagis de façon digne et de façon respectable, ça se fait pour la gloire de Dieu. La patience. L'amour est patient. Hein? C'est pour ça qu'un vieux pasteur disait à quelqu'un qui l'accompagnait dans le mariage une fois, un jeune, il disait à ce jeune-là, le premier ingrédient pour le mariage, c'est la patience. Le premier ingrédient pour le mariage, c'est la patience. Parce qu'on va loin. Donc si tu commences à ne pas être patient, je ne sais pas comment tu vas aller loin. Il lui disait ça. Donc, dans le mariage, le premier ingrédient, c'est la patience. Mais on pourrait le dire dans toutes les autres formes de relations, n'est-ce pas? La bonté, après la patience, la bonté. Est-ce qu'on définit la bonté encore? Ce n'est pas nécessaire. Mais peut-être que c'est encore nécessaire dans notre monde où on ne sait plus ce que c'est que la bonté. c'est l'action de faire ce qui est bien pour les autres. C'est l'action de faire ce qui est bien pour les autres. C'est ça la bonté. La bonté apparaît dans la parole qu'on dit aux autres et dans les actes qu'on fait pour les autres. Que votre parole soit assaisonnée de sel et que de par vos actes, les hommes voient que vous êtes de Dieu. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais faites toujours le bien. Ne rendez jamais le mal pour le mal, mais rendez toujours le bien tant que cela dépend de vous. Ça veut dire que tant que cela dépend de moi, et c'est le cas, influencé par l'Esprit de Dieu, je veux être dans cette disposition de cœur. Si l'autre en face réagit négativement, c'est son problème en ce moment-là. Puisque lui, je ne peux rien faire sur lui. Mais au moins sur moi, l'Esprit de Dieu peut me diriger, peut m'influencer. La bonté, frères et sœurs, il paraît que c'est une vertu qui devient de plus en plus rare. Alors que c'est une vertu qu'on aurait dû trouver en abondance dans l'Église. En abondance dans l'Église. La bonté en parole, la bonté dans les actes. Et mon cœur est attristé quand je vois que parfois dans nos familles chrétiennes, on commence à sortir des paroles. Des paroles. Parce qu'on est blessé. Il y a des paroles qui sont pires que de la violence physique. Il y a des paroles, quand elles atteignent le cœur, oulala, quelle violence! Quelle violence! Et l'apôtre, les apôtres poussés par Dieu nous ont déjà dit ça. Que non. Il dit, vous êtes une source de bénédiction, mais est-ce qu'une eau, une source qui donne de l'eau pure, va-t-elle aussi donner de l'eau qui empoisonne? Il dit, de la même source dont vous bénissez, c'est de la même source, maudissez. Et si on met cela en rapport à ce que Jésus dit, Jésus dit, si tu dis à ton frère imbécile, bah, tu es pareil à celui qui l'a tué. Il faut juste dire que nos paroles sont importantes, frères et sœurs. Et l'adage populaire dit quoi? Tourne 7 fois ta langue avant de parler. Même l'adage populaire dit ça. Plus forte raison pour nous les chrétiens. La bonté, c'est en parole et en acte, frères et sœurs. Et puis il y a la bienveillance. La bienveillance, c'est l'amabilité. On dit, elle est bienveillante. C'est-à-dire que ta présence fait du bien. Tu es quelqu'un de bienveillant. Tu es quelqu'un d'aimable. Tu es quelqu'un qu'on aime être avec. Tu es quelqu'un dont la présence apaise, fait du bien. Tu es bienveillant. Tu es bienveillant. Si je prends littéralement le mot, ça veut dire que quand tu es là, tu sais bien veiller sur les choses. Aussi bien sur l'environnement que sur les gens. Tu es quelqu'un de bienveillant. Alléluia. Que Dieu nous aide par son esprit. C'est ma prière pour notre église. C'est ma prière pour chacun de nous. Que tu sois et qu'il soit un chrétien, une chrétienne patiente, aimable, bienveillante, bienveillant, qui fait le bien, la bonté. Que ce soit d'abord dans nos familles et ensuite dans les siècles au fur et à mesure qu'ils s'élargissent. Enfin, la troisième et dernière série d'éléments, la foi, la fidélité, donc c'est la même chose, la douceur et la maîtrise de soi. La foi ici, il s'agit de la foi qui a une confiance tranquille en Dieu. C'est cette foi qui dit que le Dieu dont nous parlons, ce n'est pas une idée philosophique. Non, c'est un Dieu réel, tout puissant, nous l'avons chanté. Jéhovah est son nom. Il est le Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre, sauveur de l'humanité, et qui vient bientôt pour rétribuer chacun selon l'orientation qu'il aura donnée à son cœur. C'est cette foi-là. Cette foi aussi qu'on appelle pist, cette foi qui est fidélité. Cette fidélité qui constitue la qualité qui permet de compter sur quelqu'un. Hein, le fidèle, le fidèle. Le fidèle, c'est celui sur lequel on peut compter. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle. Cet ami sur qui je peux compter en tout temps et en toute situation. Sommes-nous des amis fidèles? Sommes-nous des amis fidèles? Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous en tout temps, malgré nos limites et nos défauts? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Je suis marqué par l'épisode de Pierre, Jean et Jacques à Gethsémané. Jésus dit, montons, mon heure arrive, mais je suis triste, angoissé jusqu'à la mort. Je veux que vous soyez vous trois avec moi pour ce dernier combat. Trois reprises, il vient, il les trouve endormis. Et il est triste dans son cœur. Il dit, vous êtes mes amis, j'avais voulu que vous soyez là avec moi. Et vous n'avez pas pu résister. Mais il ne les blâme pas, au contraire, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Quel ami fidèle ce Jésus. Je veux lui ressembler, je veux que tu lui ressembles en cette année 2018, frères et sœurs. Ressemblons à cet ami fidèle. C'est ça la fidélité, c'est ça la foi. Cette foi qui tient solide, qui est solide, qui, malgré les déceptions, malgré les chutes, malgré, dit, mon Dieu est vivant, il me conduira, il me pardonnera, il me relèvera, je veux tenir bon. En plus, on a l'Esprit de Dieu pour nous aider à tenir bon. Quelle grâce! La douceur, c'est d'abord l'humble soumission à la volonté de Dieu. Être doux, c'est d'abord être doux entre les mains de Dieu, être obéissant, être malléable, être dirigé par Dieu. Laissez-vous influencer par Dieu. Et si on est doux, on commence par laisser la parole nous diriger. N'est-ce pas? Il y a cette image, chaque fois, il dit un peuple au cou raide, un peuple qui ne se laisse pas diriger. Sommes-nous pareils? Je ne pense pas. Je prie simplement que nous ne soyons pas pareils. Nous soumettre à la volonté de Dieu, cette capacité de nous laisser enseigner par la parole de Dieu, celle qui est la vérité, et de considérer les autres aussi dans la douceur. La maîtrise de soi, enfin pour terminer, la maîtrise de soi, et celle qui conclut la liste. Hein. On a l'impression qu'il a tout dit maintenant, pour conclure, c'est la maîtrise de toi-même. C'est fou, hein? On va dans des religions dites orientales pour chercher la zen attitude, la maîtrise de soi. Il paraît qu'il y a des exercices qu'il faut faire pour être maître de son corps, maître de ses attitudes. Moi, je sais que je ne vais pas y arriver. C'est tellement compliqué cette façon de faire. Il faut être en méditation. Ouh là là. Alors que la Bible dit que Dieu t'a donné une ressource. Non, Dieu s'est donné à toi pour que tu sois capable de te maîtriser. Dieu l'a fait. Ce dépôt, il est en toi. Il faut simplement apprendre à te laisser influencer par Dieu et tu apprendras à être maître de toi-même. C'est ce qu'on appelle écouter Dieu, apprendre à marcher selon Dieu. Ça veut dire se retenir, se discipliner, ne pas se laisser dominer ni par nos impulsions sexuelles, ni par nos passions, ni par nos appétits, ni par nos humeurs. Nos humeurs sont mauvaises conseillères. Ceux qui sont des sanguins, c'est des traits de caractère qu'on définit dans la psychologie. C'est des gens qui peuvent changer d'humeur. Dans une circonstance, la personne peut être très joyeuse. Et puis, il suffit qu'elle soit contrariée dans la seconde qui suit, vous ne la reconnaissez plus. On est tous un peu comme ça. Et si on devait suivre nos humeurs, franchement, il y aurait beaucoup de bagarres dans le monde. Parce que les gens qui te cherchent, il y en a beaucoup comme ça. Mais que Dieu nous aide encore. Enfin, concluons notre parcours de ce matin. Le fruit de l'esprit, c'est une disposition affectueuse, pleine d'amabilité, un esprit éblouissant et tranquille, un tempérament rayonnant et une manière discrète, une patience qui supporte les circonstances pénibles et les personnes accablantes, un discernement empreint de sympathie et une serviabilité pleine de tact, un jugement bienfaisant et une générosité de bonne réputation, une loyauté, une fidélité à toute épreuve, une humilité qui s'oublie dans la joie des autres, une maîtrise de soi, quoi qu'il arrive, ce qui est la marque la plus visible du chrétien qui marche vers la maturité. Alors, j'ai dit la dernière fois, et c'est un rêve, mais c'est un rêve que je transforme en prière. Je rêve et je prie. Je prie surtout que ce Galates chapitre 5, 22 à 25, soit une réalité dans chacune de vos vies, dans chacune de nos vies. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Que l'Esprit produise en moi et en toi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de nous-mêmes. C'est l'Esprit qui nous a donné la vie. Laissons-le conduire aussi nos attitudes, nos caractères et notre conduite. Les dimanches qui viennent, nous parlerons des dons parce que nous voulons servir Dieu. Nous parlerons des dons de l'Esprit. Prions. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous sommes en chemin avec toi, c'est vrai. Merci pour chaque année où tu nous donnes de gravir une marche de plus sur ce chemin vers toi, à ta ressemblance. Mais nous voulons aussi nous défier. Nous voulons être des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Nous voulons être des chrétiens, des chrétiennes à la gloire de Dieu. Nous voulons que cette gloire se manifeste dans nos couples, dans nos familles. Nous voulons que cette gloire se manifeste dans notre église, dans les environnements, là où nous vivons, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous sommes en relation avec des personnes. Mais nous avons compris que c'est toi qui peux nous aider à le faire. C'est ton Saint-Esprit qui peut nous aider à le faire. Et que c'est un chemin. Ce n'est pas un état tout figé, à un point T, à un moment T. Non, mais que nous avons cette invitation à progresser, à grandir, à marcher vers, à faire des efforts. Mais ces efforts soutenus par toi. Je prie que Saint-Esprit, tu agisses puissamment dans nos cœurs, dans nos vies. Que tu agisses dans ton Église. Que tu nous donnes d'être des enfants de Dieu à la gloire de Dieu dans une génération qui a bien besoin de lumière et de sel. Nous sommes le sel et nous sommes la lumière. Aide-nous à les vivre en Jésus-Christ.